Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Il est considéré comme le plus grand écrivain algérien depuis Kateb Yassine. Certains le comparent même à Faulkner ou Camus. Le dernier livre d'Anouar Ben Malek vient confirmer cette suite de superlatifs. Avec L'amour au temps des scélérats, l'auteur nous offre une magistrale leçon d'humanité dans un récit tout à la fois tragique et d'un comique extravagant, avec une pointe de sarcasme qui nous fait oublier que ce roman a pour toile de fond la Syrie contemporaine et sa guerre civile qui n'en finit pas. Roman d'amour, roman de liberté, roman de tolérance, avec Anouar Ben Malek, les petites lâchetés, les compromissions, la bêtise sont mises à nu. Un entretien réalisé par Mathias Zulchani que vous pourrez réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Anouar Ben Malek.
Bonjour Éric Bataillon.
Romancier, vous publiez aux éditions Emmanuel Colas L'amour au temps des scélérats. Et vous avez choisi de situer l'action dans la Syrie actuelle. Est-ce parce que, selon votre point de vue, ce pays serait rempli de scélérats ?
Non, enfin, tous les pays sont, à mon avis, homogènes en matière de scélératesse. J'ai choisi la Syrie, non pas parce que c'est la Syrie, c'est pas un livre sur la Syrie. C'est un livre sur un pays outragé, comme il a pu en exister beaucoup à plusieurs époques de l'humanité. La Syrie dont je parle, ça aurait pu être l'Allemagne des années 30-40. Les exemples, la violence, l'abjection, etc., atteignent des maximums, sont malheureusement extrêmement nombreux. Donc.
Scélérat, c'est un mot quand même assez fort. Qui sont les scélérats dans cette Syrie que vous décrivez au plus près ?
Ah, ils sont innombrables. Les scélérats, ça, évidemment, les plus simples dans cette liste que je déroule dans le livre, c'est d'abord évidemment Daesh. Daesh, cette intolérance sûre de soi, c'est le plus terrible de l'histoire. Ces gens-là, les gens de Daesh par exemple, ne se considèrent pas comme des assassins, etc. Ils se considèrent comme ceux qui défendent la vraie foi et qui sont les meilleurs descendants d'Abraham, qui lui n'a pas hésité à vouloir sacrifier son fils, puisque une voix supérieure lui a ordonné. Les scélérats, il y en a aussi d'autres. Je parle du régime d'Assad, qui n'a jamais hésité. D'ailleurs, c'est une constante de ce régime-là. Tant le père que le fils a usé des moyens les plus brutaux pour mater une population. Mais les scélérats, il y en a aussi, internationaux. La communauté internationale, entre guillemets, en fait, est intervenue plusieurs fois de manière extrêmement brutale, sans tenir compte vraiment des intérêts des populations sur place, abandonnant les uns quand ce n'était plus de leur intérêt. Je parle des Kurdes, par exemple, qui ont été abandonnés. Parlant, par exemple, du régime d'Erdogan, qui a quasiment colonisé une partie de la Syrie, une partie de la frontière syro-turque. Je parle aussi, par exemple, du régime de Poutine, qui, lui, pour des calculs géostratégiques, a décidé de soutenir à fond le régime d'Assad. Toutes les grandes puissances ont leurs responsabilités, en fait. Donc, ce n'est pas les scélérats qui manquent, en fait.
Et puis, il y a les scélérats modestes, si l'on peut dire, du peuple, ce père qui abandonne sa fille parce qu'elle a osé avoir un amour caché avec un garçon, par exemple.
En fait, ça, c'est une des raisons qui m'ont fait écrire le livre. J'ai vu dans une vidéo de Daesh, lapidation d'une femme. Et donc c'était un groupe de gens de Daesh, des Daeshis comme on dit, et donc il y avait cette jeune femme qui allait être lapidée, et le père qui, lui, donc sa fille le suppliait, et lui a dit non, etc., enfin bref, et il a lancé la première pierre. Cette scène de lapidation m'a fait un très grand effet. Mais je dois dire en fait que ce livre-là, son origine remonte à très loin en fait. J'ai commencé, non pas à penser à ce livre-là, il y a à peu près 20 ans je pense, ou un peu plus. J'étais tombé sur un livre sur Sumer, dont je ne connaissais strictement rien. Puis j'ai lu, etc. Et je découvrais une civilisation extraordinaire. Donc, les découvreurs de l'écriture, les découvreurs de la plupart des mythes qui allaient fonder les religions monothéistes. Et avec une brutalité qui, déjà, était tout à fait comparable à la nôtre. Et il m'a semblé que rien n'avait vraiment changé. Et donc, plusieurs années après avoir écrit des livres sur l'Algérie avec les GIA qui sont en fait des cousins éloignés de Daesh, sur le génocide des Juifs et des Tziganes et des Hereros dans mon dernier livre, je m'étais dit qu'il fallait que je parle de la Syrie, mais non pas en l'exotisant, en essayant d'en faire un endroit qui soit représentatif de ce qu'appelle l'outrage fait à l'humanité. Et le lien entre les deux, cette croyance qui arrive à faire rendre légitime, par exemple, l'assassinat d'un gosse par son père, eh bien, je me suis dit que peut-être que je pouvais faire le lien.
Votre récit s'appuie sur Tammuz, personnage fil rouge finalement de votre roman. Qui est-il exactement?
Alors, c'est pas le diable. Bon, ça pourrait l'être un petit peu. Mais c'est ici, curieusement, j'allais dire, c'est le plus humain de tous mes personnages. Parce que il en a tant vu, puisqu'il est malheureusement doté de l'éternité. Et l'éternité, comme disait quelqu'un, c'est quand même assez long. Donc, il a vu tout ce que les êtres humains pouvaient faire, en pire, et en bien et en mal. Donc, il lui est parfois arrivé d'envier ces êtres humains et souvent d'en être absolument exaspéré, etc. J'ai aussi peut-être été aidé par une phrase que disent souvent les Libanais, qu'il y a deux manières de résoudre le problème du Moyen-Orient. L'une surnaturelle et l'autre naturelle. La surnaturelle, c'est que Dieu descend sur Terre et règle le problème. La naturelle, la solution naturelle, c'est vrai que les êtres humains se mettent autour d'une table pour se mettre d'accord. Et donc, cette volonté de faire intervenir quelqu'un à qui on l'a fait pas, qui est quand même à la fois rebelle et obéissant. Il est obéissant et rebelle contre celui qu'il appelle le patron. Ça lui permet de voir d'un œil à la fois caustique, parfois attendri, ces êtres humains qui se débattent dans une période de temps qui est quand même très très courte et qui arrive à faire le pire.
Alors justement, Tammuz, il est envoyé de Dieu finalement, d'une certaine façon, mais qu'en réalité, il n'y aurait pas vraiment de directive venue d'en haut. Est-ce une façon pour vous de dire que Dieu et la religion, ce n'est pas tout à fait la même chose?
Tammuz voudrait bien avoir des éclaircissements sur la mission qui lui est donnée. Mais son patron, comme il le dit, est toujours très ambigu. Comme si, lorsque ça réussissait, donc il faudrait lui en reconnaître le mérite, mais que lorsque ça échoue, ce serait la faute de ses sujets. Et donc voilà, Tammuz, à la fois, il est irrité quand ce manque de directives, et parfois, il en est plutôt heureux. Donc voilà, il ne sait pas exactement ce qu'on attend de lui.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Tammuz rencontre Abraham dans un chapitre de votre livre, Abraham auquel se réfèrent les trois grandes religions monothéistes. La description que vous en donnez ne semble pas très flatteuse, justement, pour le mythe. Pourquoi ?
Mais regardez, quand on lit les livres saints, en particulier la Bible, le personnage d'Abraham, Avram au départ, et ensuite qui prend le nom d'Abraham, est pas très sympathique en fait, parce que à chaque fois, il a peur lorsque Pharaon lui enlève sa femme, il dit que je suis ton frère, etc. Et il retire toujours un bénéfice. On peut trouver que c'est pas très très, très correct. Et en même temps, il est peut-être un peu trop sûr de ce que la voix, donc il entend, il est un peu trop sûr de ce qu'elle lui dit. Or, par exemple, Tammuz lui dit, mais est-ce que tu es vraiment sûr qu'il te demande de dégorger ton fils? Est-ce qu'il n'est pas en train de te tester? Est-ce qu'il veut faire de toi un homme de main? Ou quelqu'un qui, parce qu'il t'a donné l'humanité, se montre digne de cette humanité, au point de se rebeller? Donc voilà, cette question-là agite Tammuz et Abraham. Abraham qui aime à la folie son fils, mais qui en même temps est un chef de guerre. Alors il se dit, je ne fais pas ce que le patron me demande, peut-être que mes hommes, eux, ne voudront pas m'écouter. Voilà. Et cette question-là n'est pas résolue, parce que les gens comme les gens de Daesh, du GIA, tous ces mouvements extrêmement violents, fanatiques, etc., leur fanatisme, en fait, est basé sur des textes. Les textes leur disent, au nom de Dieu, au nom du patron de Tammuz, par exemple, vous pouvez égorger si vous êtes sûr que cela correspond à ce qu'on vous demande.
Justement, est-ce que votre roman est un roman sur l'intolérance des religions lorsqu'elles sont instrumentalisées?
En fait, c'est pas un livre sur les religions, parce que vous avez des exemples extraordinaires de croyants qui sont la bonté même. Non, c'est sur la facilité avec laquelle l'être humain se laisse convaincre de faire le pire, soit au nom des religions, soit au nom, par exemple, d'Hitler, soit au nom de Staline. Dans le cas, par exemple, de Staline, les gens étaient prêts à sacrifier même leur honneur dans les procès de Moscou, en disant à la fin, donc ils savaient qu'ils allaient être exécutés, ils disaient « Vive Staline !» Donc voilà, cette aptitude de l'être humain à donner tout, jusqu'à sa vie, jusqu'à sa dignité, et la vie des autres, évidemment, pour moi, elle me fascine.
Orion Hebdo sur RFI.
God said, Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. And Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but now, next time you see the coming man, you better run.
Anouar Ben Balek est l'invité d'Orient Hebdo ce dimanche pour parler de son livre « L'amour au temps des scélérats » publié aux éditions Emmanuel Colas. Emmanuel Colas, une éditrice engagée qui publie par exemple la production littéraire de l'opposant turc, c'est la Tine de Mirtaş. Anouar Ben Balek, c'est important pour un auteur d'avoir un éditeur engagé derrière soi.
Ah, chez Emmanuel Colas, c'est une sacrée éditrice, hein, je veux dire, parce que d'abord elle a des convictions fortes. Elle a publié des livres sur les Kurdes. Elle a publié un magnifique livre l'année dernière qui a eu le Goncourt des lycéens sur le combat des femmes en Afrique, etc. Non, c'est un plaisir d'avoir cette femme comme éditrice. En plus, elle se bat pour le livre, je veux dire. je peux en témoigner, je veux dire. Donc vraiment, je suis très heureux d'être publié par elle.
Revenons à votre livre. L'un de vos personnages veut devenir une grande chanteuse. Un autre recherche ses enfants enlevés par les islamistes radicaux. Un frère veut à tout prix protéger son petit frère, tandis que d'autres personnages entendent simplement vivre une vie libre et en paix. Alors en combattant ces sentiments si simples et si normaux, si l'on peut dire, les différents groupes de combattants syriens ne s'attaquent-ils pas tout simplement à notre humanité ?
Oui, parce qu'un livre comme le mien n'est supportable à la fois par le lecteur et par l'écrivain que si, tout au long du livre, vous parlez de l'amour, en fait. Voilà. C'est peut-être fleur bleue, mais je vous assure que dans les conditions donc qui sont celles de la Syrie ou de toute autre, ou qui ont pu être celles de l'Irak, hein, je veux dire, ou de tas d'autres régions, par exemple maintenant l'Afghanistan, ce qui peut racheter, même pendant un court laps de temps, l'ignominie parfois du comportement des êtres humains, c'est l'amour. Voilà, c'est cet amour-là dans le livre. J'ai réécrit plusieurs fois le livre parce qu'à chaque fois, je tentais de faire en sorte que on ne chosifie pas les personnages, qu'on ne se dise pas « bon, c'est des Syriens, c'est-à-dire des gens qui passent à la télé auxquels il arrive des tas de malheurs et ça ». Non, ce sont des gens comme vous et moi, et je voulais que tout le temps on puisse se mettre à leur place. Et le personnage d'Asmaan, il est intervenu par hasard. En fait, je me rappelle, c'est arrivé au bout du troisième ou quatrième chapitre, que j'ai donc ensuite totalement réécrit, lorsque je suis tombé amoureux fou d'Asmaan. Je découvrais
la chanteuse.
La grande chanteuse Asmaan, qui a été longtemps considérée comme la rivale de la diva absolue Om Kulthum, qui a eu une vie romanesque au possible, une princesse druze, belle, libre comme femme. À l'époque, c'était pas du tout évident. Et qui va mourir de manière tragique vers les 32 ans dans quelque chose qui ressemble. Pour beaucoup, ce serait un assassinat. Elle a travaillé pour les services français contre les Allemands, etc. Enfin, bref, un personnage de roman. Et donc là, je me suis dit, cette femme-là, cette voix-là, ça fait partie de ce qui est beau dans l'humanité. Et je voulais donc que Tammuz, lui qui est une espèce de diable que certains peuvent voir d'un mauvais œil, lui soit celui qui donne à une jeune apprentie chanteuse cette puissance qui allait faire se pâmer tous les Syriens plongés dans la guerre, etc. Et donc pour moi, c'est à ce moment-là, cette jeune chanteuse, avec l'aide de Tammuz, ça devenait un des personnages principaux du livre.
Et à ce moment-là, Tammuz, qui est peut-être un peu du diable ou autre chose, est d'une certaine façon un petit peu Gabriel, puisqu'il vient aider cette chanteuse à développer son don.
J'avais vu comme ça, mais c'est vrai que on peut le voir comme ça, parce que au milieu de la laideur absolue, ce don que lui donne Tammuz, c'est ce que dira l'amant de la jeune chanteuse. Le monde devient beau. Autour de la laideur, de la mort, de la traîtrise, de l'intolérance, etc., cette jeune chanteuse rachète un peu ce qui se passe en Syrie.
Mais cet amour que vous décrivez au milieu des décombres et au sein de la barbarie, est-ce que c'est une réalité ou un souhait que vous émettez ?
Non, c'est aussi une réalité. Dans le livre, par exemple, une des raisons aussi qui m'a fait écrire le livre, c'est aussi le sort des Yézidis. Et les Yézidis, dont je ne connaissais rien au départ, comme beaucoup de monde d'ailleurs, je ne connaissais rien aux Yézidis. J'ai découvert, en commençant mon travail de documentation, un petit peuple doté d'une religion très ancienne et quand même encore vivante. Et ce peuple-là a subi les pires avanies. Et ces avanies continuent. Par exemple, j'ai entendu parler d'un cas qui m'a vraiment fait mal au cœur. C'est une jeune Yézidi qui a été enlevée par Daesh, comme le personnage, un des personnages Zayelé dans le roman. Elle est enlevée par donc Daesh et elle a un enfant d'un terroriste. Donc ensuite, elle est libérée après des combats, etc. Elle revient avec cet enfant et les Yézidis lui disent « Toi, tu es la bienvenue et pas ton fils. » Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enfuit. Elle se retrouve totalement seule, etc., rejetée par son propre peuple et rejetée par le reste de la population. La population, qu'elle soit d'ailleurs musulmane ou chrétienne, etc., est absolument intolérante envers ce peuple, qu'elle considère comme un peuple adorateur de Satan, etc. Donc, vous voyez, les scélérats, c'est aussi ce genre de comportement envers cette femme-là. Et cette femme-là, c'est le malheur absolu, je veux dire.
Est-ce aussi un roman sur la liberté, liberté d'expression, liberté de penser, liberté de se déplacer,
d'aller? Oui, bien entendu, je veux dire, un roman, en tout cas, quand on est issu du monde qui est le mien, le monde arabe, etc., le monde arabo-musulman, la liberté d'expression est une question qui se pose tout le temps. Un roman comme le mien, il est probable qu'il ne puisse pas être publié dans n'importe quelle région du monde arabe. Dès que vous parlez de religion, dès que vous avez un regard un peu détaché, un peu ironique, vous avez tous les problèmes du monde. Quand j'avais écrit, par exemple, Omaria, qui parlait du destin des Morisques d'Espagne, j'avais eu droit à dans des articles de journaux incendiaires dans le monde arabe. Une fétoire a été lancée contre moi. La police nous a, ici française, nous a conseillé de quitter la maison, etc. Ça a été une période assez difficile. Et pourtant, je ne parlais que d'événements qui s'étaient passés au tout début du XVIIe siècle. Ça paraît très, très loin. Et le livre se voulait une espèce de dommage à la mémoire des Morisques. Voilà, le paradoxe était là. Mais ce combat-là est toujours d'actualité. Un exemple simple, c'est celui du cas algérien, par exemple, où il y a un recul des libertés extraordinaire, où quelqu'un qui avait émis une opinion, un historien de la religion qui a émis une opinion sur le fait que certaines traditions musulmanes existaient avant l'apparition d'Islam, a été condamné à 3 ans de prison ferme. Son procès va venir en appel. Il y a quelqu'un, il y a quelques années, Monsieur Bouhafs, qui s'était converti, ça a été assimilé à une insulte contre l'islam. Il a fait un peu moins de 2 ans de prison ferme. Il s'est exilé en Tunisie et il a été en fait envoyé de manière indigne par le président actuel de la Tunisie. Il a été renvoyé en Algérie alors qu'il bénéficiait de la protection de l'ONU et où il est actuellement en prison. Je veux dire, voilà. Mais moi, à mon échelle, je ne suis que romancier, donc j'écris ce que je peux écrire, et puis en espérant que peut-être le livre soit lu et interprété comme il l'est. Il est un hommage à ces peuples qui se débattent dans des souffrances auxquelles le monde extérieur reste en fait totalement indifférent.
Merci Anouar Ben Malek.
Merci Eric Patayan, c'est moi qui vous remercie.
Votre roman « L'amour au temps des scélérats » est publié aux éditions Emmanuel Colas. Orient Hebdo, on se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous dans quelques secondes, le journal.
En sol majeur.